Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel au chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue. Le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héraut cria à pleine voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Voilà, on va arrêter là la lecture. On va revenir sur ce chapitre 3 pour différents passages. Mais j'aimerais parler ce matin avec vous du feu de la fournaise. On passe parfois par des moments où on a l'impression que tout est contre nous et que les choses, au lieu de s'améliorer, vont de plus en plus mal. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego dans ce récit. Ils vivaient déjà un temps difficile parce qu'ils avaient été déportés du pays de Juda. Ils avaient ensuite été donc contraints d'apprendre la langue des Chaldéens et surtout la culture des Chaldéens avec leur divinité, avec leur faux dieu et toutes ces choses-là. Pour être au service du roi, donc ils n'avaient plus leur famille, ils avaient été arrachés à leur pays à plus de 1000 kilomètres, il n'y avait pas des contacts et des moyens comme aujourd'hui, et donc ils étaient vraiment assez dans une situation difficile. Autre chose, c'est que le roi a changé leur nom, c'est un petit peu comme s'il lui avait arraché leur identité, parce qu'en fait ils s'appelaient à l'origine Anania, Michaël et Azaria. On les connaît mieux sur leur nom que leur a donné le roi Nebuchadnezzar. Anania signifie « l'Éternel est bienveillant ». Et j'ai remarqué que les trois noms de ces Hébreux, eh bien, avaient tous quelque chose de Dieu sur leur vie. Il y avait quelque chose de Dieu sur leur vie. Ils appartenaient au peuple de Dieu. On pourrait dire que c'était des croyants. Anania signifie « l'Éternel est bienveillant ». Et nous savons, nous qui sommes croyants, que l'Éternel est bon et qu'il prend soin de chacun de nous. Parce que c'est écrit dans notre cœur. Là, c'était son nom. Alors, ils ont changé son nom en Shadrach, commandement de Haku, un dieu babylonien. Donc, on lui a arraché son identité pour lui coller une identité d'une divinité étrangère. Pareil pour Michaël, qui signifie « qui est comme Dieu ». On l'a appelé Meshach. Qui est-ce que Haku, encore une divinité babylonienne. Et Azaria, l'Éternel est mon soutien, encore le nom de Dieu. Ils portaient tous le nom de Dieu et à chaque fois, ils ont changé leur nom. Donc, Azaria est devenu Abednego, serviteur du Dieu Nego. Donc, à chaque fois, ces serviteurs de Dieu ont été bousculés dans leur identité. Mais il y a quelque chose en eux qui leur rappelle qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont serviteurs de Dieu. Vous voyez, on peut vous enlever votre nom, on peut vous changer de place, on peut vous mettre en prison. Il y a quelque chose au fond de notre cœur qui dit « Nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons à l'Éternel. » Et ça, c'est écrit sur notre cœur. Et ça, ils ne l'ont pas perdu. Même si on a tout changé à l'extérieur, l'intérieur ne change pas. Il y a un jour une expérience qui a été faite par un fermier qui a trouvé un aiglon qui était en difficulté. Il l'a recueilli dans sa ferme et il l'a élevé avec des poules. Et ce petit aiglon a pris le modèle sur son environnement et il a commencé à faire comme les poules, il a commencé à picorer dans la basse-cour. Et un jour, un zoologiste qui passait dans cette ferme a remarqué ce phénomène étrange de voir cet aigle qui commençait à grandir et puis qui avait un comportement d'une poule. Et il a posé des questions au fermier et lui a demandé s'il pouvait tenter une expérience. Il a emmené l'aiglon, donc, et il l'a pris avec lui dans ses bras. Et puis, il l'a jeté vers le ciel pour essayer d'aider cet aiglon à prendre son envol. Et l'aiglon, qui n'avait jamais appris à voler, paf, il est retombé par terre. Et puis, il s'est jeté sous les ailes de la poule comme une mère protectrice. Donc, ça n'avait pas abouti. Alors, le zoologiste l'a emmené un peu plus haut. Il l'a emmené sur le toit d'une maison pour essayer de le faire décoller, afin que cet aigle puisse prendre son envol. Alors, il l'a pris du haut de la maison et il l'a jeté vers le ciel. Mais l'aiglon, à nouveau, paf, il est retombé par terre et il n'a pas déployé ses ailes pour s'envoler. Alors, le zoologiste ne s'est pas découragé. Il est monté sur une montagne. Et là, il a choisi un endroit où il y avait beaucoup de vide, il y avait un grand précipice, et il a jeté l'aigle dans le vide. Eh bien là, le petit aiglon a commencé à battre des ailes et il a appris à voler. Donc c'était la première fois qu'il se retrouvait dans cette circonstance vraiment sans rien pour se raccrocher et il a commencé à voler. Et en fait, il a retrouvé son identité d'aigle. Il l'avait en lui. En fait, c'était inscrit dans ses gènes, c'était inscrit dans son identité qu'un aigle, c'est fait pour voler. C'est pas fait pour rester sur terre à picorer comme les poules. Et donc, il l'a redécouvert, il a retrouvé son identité. Eh bien, cette histoire me fait penser à nous-mêmes qui sommes chrétiens. Nous sommes appelés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Nous avons une identité spirituelle parce que nous sommes fils de Dieu. Et bien souvent, nous vivons comme cet aiglon, mais notre environnement a une influence sur nous. Et comme nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais c'est par la foi, et bien souvent, c'est l'environnement qui nous ratatine, nous n'avons pas déployé nos ailes, nous n'avons pas pris notre envol, et finalement, nous n'avons pas fait les expériences spirituelles que nous aurions pu. Alors, cette anecdote pour nous montrer que nous avons une réelle identité spirituelle que nous ne devons pas oublier parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors, j'arrive au verset 7 dans notre passage, Daniel 3, où nous voyons maintenant une étape suite à cette demande de se prosterner devant la statue. Donc, nous avons nos trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Que vont-ils faire? Nous pouvons parler premièrement de la pression du conformisme. Verset 7, c'est pourquoi au moment où tous les peuples, remarquez bien que tout le monde se soumet à l'ordre du roi de se prosterner devant la statue. Ils entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Donc ça, c'est la pression du groupe, la pression du monde, de la masse populaire. Ils sont très nombreux. C'est la totalité du royaume qui le fait. Alors c'est beaucoup plus facile de faire comme les autres et de ne pas s'afficher tel qu'on est véritablement enfant de Dieu quand tout le monde a des convictions différentes. Et nous sommes aussi tentés, dans notre société, de suivre le mouvement. Il y a quelques années de cela, j'étais dans une entreprise c'était un journal de petites annonces, je travaillais comme graphiste, et j'avais fait un prospectus pour l'église, j'avais fait dans cette entreprise un prospectus qui annonçait des réunions chrétiennes, j'avais témoigné à quelques-uns, j'avais eu des contacts comme cela, et j'en parle à une personne du groupe qui était dans la saisie des textes informatiques. Et lorsqu'elle voit le texte, elle me dit « Écoutez, je suis aussi chrétienne, mais en secret. » Chrétienne en secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Elle voulait absolument que personne sache qu'elle était chrétienne dans l'entreprise. Alors, vous voyez, quelquefois, on est chrétien, mais en secret. On n'ose pas témoigner, on n'ose pas faire connaître qui nous sommes parce qu'il y a la pression du groupe. Elle avait peut-être honte. Elle avait peut-être peur de ce que les autres allaient penser. Or, Paul nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous n'avons pas à avoir honte de Dieu. Si nous avons honte de Jésus, Jésus aura honte de nous aussi. Mais si nous sommes fiers de Jésus, si nous l'honorons, alors nous serons aussi honorés. Alors, nous sommes chrétiens et comme Shadrach, Meshach, Abednego, nous serons parfois éprouvés dans nos convictions. Il fallait qu'ils tiennent bon, il fallait qu'ils soient fermes. Ils étaient minoritaires, ils n'étaient que trois, face à tout le royaume. Qu'est-ce que nous allons faire si tout le monde prend une décision, une position qui est contraire à la parole de Dieu? Comment allons-nous réagir? C'est plus facile de céder, c'est plus facile de faire comme les autres. Mais nous voyons chez ces trois hommes, une force intérieure, une foi qui les porte à faire confiance à Dieu dans l'obscurité. Je pense à Pierre dans le Nouveau Testament, lorsqu'il prêchait l'Évangile, et vous savez qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a des restrictions de toutes parts, soi-disant à cause de la laïcité. Il y a même des chrétiens qui sont dans des procès, même dans notre pays, j'ai entendu dernièrement, des chrétiens qui ont distribué des tracts, des tracts où il racontait le témoignage qu'il avait découvert Jésus dans son tract et qu'il avait été délivré de l'homosexualité. Il a distribué ce tract. Figurez-vous que des associations ont porté plainte en justice et ils se sont retrouvés devant les tribunaux. C'est une affaire qui n'est pas terminée, qui est encore en jugement. Suite à la distribution de ce tract, on voit quand même, peut-être il y avait certaines maladresses sur le tract, mais je crois qu'il n'y avait rien de méchant, de mauvais vis-à-vis des homosexuels. C'était simplement le témoignage d'une expérience. Mais rapidement, les choses peuvent tourner et ils se retrouvent en difficulté à cause de cela. Alors, la pression est là. Pierre, on lui avait dit, surtout, tu ne prêches plus la parole de Dieu. Nous ne voulons pas de l'Évangile. Lui, il a fait quand même ce que Dieu lui mettait dans le cœur. Il parlait de Jésus et il a dit ceci. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il l'a dit devant le Sanhédrin. Il était accusé, il était dans une situation difficile. Il n'a pas cédé à la pression, frères et sœurs. Il a été ferme. Celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu le garde, Dieu le bénit. Nous sommes éprouvés aussi. Il a été éprouvé et il a été fidèle. Paul, un petit peu plus loin, nous demande de prendre position dans l'Épître aux Romains. Il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Alors ça s'adresse à nous. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est tellement facile de se conformer à la pensée environnante. Surtout quand nous sommes en minorité, peut-être quand on est le seul dans notre famille qui est chrétien, on est peut-être le seul au travail qui est chrétien. Alors c'est plus facile de faire comme tout le monde et de ne pas afficher ses convictions. Mais Paul dit non, ne vous laissez pas dominer, ne vous laissez pas influencer par cela. La version Semeur traduit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Savons que le monde, il a ses principes qui ne sont pas inspirés de la parole. Il a ses valeurs. La Bible parle aussi du prince de ce monde. Et tout cela est un système de pensée. Mais nous avons des principes qui sont chrétiens. Nous avons des valeurs qui sont inspirées de la parole de Dieu. Et nous avons un prince qui est Jésus, notre Seigneur. Et c'est lui que nous servons et c'est lui que nous adorons. Donc, c'était le premier point, verset 7, qui nous parle maintenant de la pression du groupe à laquelle nous sommes confrontés. Et il nous faudra prendre, comme Shadrach, Meshach et Abednego, des positions dans des moments où peut-être on sera tenté de faire comme les autres. Deuxième point, au verset 12, nous allons parcourir le chapitre 3, peut-être en citant quelques versets. Au chapitre 12, il y a des ennemis dans l'ombre qui se sont levés. Les trois amis servaient à la cour du roi, une position assez importante, mais il se trouve qu'ils n'avaient pas que des amis, et certains de leurs collègues ont fait un plan pour les faire mourir. C'est au verset 12, « Il y a des Juifs que tu as mis à l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, donc ce sont nos trois amis, trois croyants, des hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Vous voyez comment ils glissent pour mettre ces trois hommes en confrontation avec le roi. Ils disent, ils ne tiennent pas compte de toi. En fait, c'est qu'ils ne voulaient pas se soumettre à un ordre. Il ne s'agissait pas d'une personne. Mais les ennemis de ces trois croyants vont les mettre en confrontation directe avec la personne du roi en disant « Ils ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. » Alors ça va éveiller l'orgueil de ce roi, ça va éveiller les sentiments de vanité, de fierté. Et il va tout de suite prendre des dispositions pour les sanctionner. Ils ne servent point tes dieux, ils n'adorent point la statue que tu as élevée. Alors peut-être certains dans votre travail, dans votre activité, eh bien ont fait des plans. Vous ne le savez pas, mais peut-être ils fomentent quelque chose pour vous nuire, pour vous faire du mal, pour vous discréditer, prendre votre place. Mais notre vie n'est pas, notre destinée n'est pas entre la main des hommes, frères et sœurs. Notre destinée est entre la main de Dieu. Il a notre destinée entre ses mains. Et lui, il utilise même le mal qu'on veut nous faire pour notre bien. Parce que Dieu a un plan extraordinaire. Proverbe 26 dit « Celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. » Ça, c'est Dieu qui agit comme ça. Ils ont creusé une fosse, mais c'est eux qui tombent dedans. Ils ont envoyé une pierre, mais c'est eux qui prennent la pierre. Parce que Dieu veille sur ses enfants et il prend soin de chacun de nous. Ah, notre Dieu, il nous aime. Ne craignez pas leurs agissements, ne craignez pas peut-être même les paroles qu'ils vous ont dites ou les menaces qu'ils ont proférées contre vous. Parce que si quelqu'un vous touche, c'est comme s'il touchait Dieu. Il y a un verset qui le dit ça. C'est Zacharie 2, 8. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. » Écoutez bien la fin du verset. « Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Celui qui touche à des croyants, il touche à la prunelle de Dieu. Un jour, il y a bien des années, quand j'avais emmené mes enfants à un parc, ils étaient petits, Sarah devait avoir 4 ans, et dans le parc où il y avait des animations pour les enfants, il y avait donc toutes sortes de jeux. Elle jouait paisiblement avec d'autres enfants, c'était très bien. Et tout d'un coup arrive un chien, de je ne sais où il sort, mais un chien qui court là dans le parc et qui s'approche de ma fille. Alors immédiatement, je me mets entre le chien et ma fille pour la protéger. Mais je ne voyais pas le maître et je voyais le chien qui sautait, qui courait autour de ma fille. Alors au bout d'un moment, j'ai repoussé le chien, je lui ai donné avec mon pied, je l'ai repoussé comme cela pour qu'il aille plus loin. Il n'était pas question que ce chien il touche à ma fille. Voilà comment notre Dieu, il est pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui vient vous faire du mal, notre Dieu, il vient, il s'interpose et il écarte l'ennemi et il ne permet pas qu'on nous touche, si ce n'est dans sa volonté, parce que Dieu est souverain et maître de toutes circonstances, de toutes choses. Mais en tout cas, rien ne peut nous arriver si le Seigneur ne l'a permis. Il est entre nous et l'adversité. Il s'interpose, il se met entre nous et le danger. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est pourquoi Jésus dit, il va très loin, lorsqu'il dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Est-ce que c'est naturel de faire quelque chose comme ça? Est-ce qu'on le fait spontanément? Quand quelqu'un vous a fait du mal, quand quelqu'un vous a heurté, c'est plutôt des sentiments de colère. Alors le Seigneur nous demande de dépasser cela et d'arriver à comprendre que nous pouvons même bénir ceux qui nous font du mal, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Tout cela, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est quand on est dans la présence de Dieu et qu'on a vraiment conscience que Dieu dirige toutes choses. Vous voyez, quand Joseph était en prison, il a été quand même vendu par ses frères, il a été quand même trahi, on lui a fait du mal, on a voulu le tuer, on a dit toutes choses de choses fausses sur lui. Mais dans ce temps-là, si nous sommes vraiment croyants, bien il pouvait bénir, il pouvait prier pour ses ennemis, il pouvait bénir ceux qui lui ont fait du mal. Et il pouvait dire, Seigneur, tu diriges toutes choses pour que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et même ceux qui m'ont fait du mal, et on le voit dans la vie de Joseph, à la fin, eh bien, Dieu s'est servi de Joseph pour ramener ceux qui lui avaient fait du mal et pour qu'ils s'en sortent. Et il y a eu la réconciliation, le pardon. Voyez que Dieu est bon et qu'il prend soin de nous. Cette histoire, vous la trouvez dans l'Ancien Testament, dans la vie de Joseph, de David. David avait un fils qu'il aimait, c'était Absalom, son fils aîné. Absalom, qui devait devenir roi d'ailleurs après David. Mais Dieu avait décidé autrement et Dieu avait choisi Salomon. Absalom a commencé à un certain âge à avoir certaines prétentions au trône parce que finalement, il aurait bien aimé succéder à David et il a parlé au peuple, il a fait ami-ami avec le peuple et petit à petit, il avait plus de succès que son propre père. Et à un moment donné, ses amis l'ont couronné roi, alors que David n'était pas au courant. Et lorsque David a appris cela, il a dû fuir Jérusalem parce qu'il craignait pour sa vie. Il est parti avec une petite troupe. Alors c'était l'homme le plus puissant du pays. C'était le roi David. Eh bien, il a dû se retrouver comme SDF, sans habitation, sans domicile fixe, errant de grotte en grotte, alors qu'il était le roi du pays. Il a fui devant son propre fils. Il s'est retrouvé devant une situation impossible. Il n'a jamais dit du mal de son fils. Regardez toutes les paroles de David. Il dit toujours « Mon fils Absalom ». Ah, faites doucement avec mon fils Absalom, parce qu'il savait que Joab, c'est un homme de guerre, il allait faire beaucoup de choses dures, c'est des hommes violents. Épargnez mon fils Absalom. Il veut toujours le bien de son fils. Et la première chose qu'il demande après, mais et mon fils Absalom, est-ce qu'il est encore en vie? Et il apprend sa mort et il est abattu, il est triste. Donc on voit dans cette histoire que David, malgré son amour pour Dieu, sa fidélité, s'est retrouvé quand même dans une situation difficile parce que quelqu'un lui a voulu du mal, il s'est retrouvé en situation d'échec, mais jamais il n'a réglé les comptes lui-même. Il a tout remis entre les mains de Dieu et à la fin, David a retrouvé son trône et Absalom a été écarté parce que Dieu a géré toute la situation. Donc nous avons toujours raison de faire confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Troisième point, au verset 16 à 18, Dieu peut tout faire. Les trois amis sont donc convoqués devant le roi et ils doivent maintenant obtempérer et se prosterner devant la statue. C'est la dernière chance qu'il aurait donnée. Nebuchadnezzar est en colère. Il fait à nouveau retentir la musique et il dit « Mais si vous ne vous prosternez pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et quel Dieu pourrait vous sauver de ma main ?» Verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors là, il y a beaucoup d'éléments ici qui nous montrent la foi, tout d'abord, qu'ils ont dans une situation d'obscurité complète. Ils savent que leur vie est menacée, ils sont en danger et tout va très très mal. Et pourtant, ils persévèrent à mettre leur foi en Dieu alors que tout leur dit que maintenant ils feraient mieux de se taire et de faire comme les autres. Ça, c'est la détermination dans la foi quand c'est l'obscurité. C'est la foi d'Abraham dans Romains 4 lorsqu'il est dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Il n'y avait plus rien à espérer. Sa femme était trop âgée, elle était stérile, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Il n'y avait plus rien, mais lui, il espérait encore, alors que tout lui disait, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est plus la peine de croire. Eh bien, il croit quand même. Ça, c'est le croyant qui est dans la foi et qui tient bon malgré les épreuves, malgré les soucis de la vie. Pas le moindre encouragement autour d'eux. Des fois, même les nouvelles qu'on apprend ou les rapports du médecin sont pires que le précédent. Il n'y a rien peut-être pour nous accrocher, à nous encourager un petit peu. Mais nous continuons à croire que Dieu conduira toutes choses pour sa gloire. Et ils disent au verset 18, « Sinon, » alors j'aime bien la version second 21 qui est plus claire, « Et même si Dieu ne le faisait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. » Sinon. Ils prennent en compte la possibilité que Dieu veuille faire autrement et qu'ils doivent mourir à cet instant-là. Eh bien, ils sont prêts à passer dans l'éternité. Paul parle à un moment donné des persécutions que les chrétiens subissent. Beaucoup de nos frères, nos sœurs sont morts à cause de leur foi. Et encore aujourd'hui, nous le savons, dans des pays persécutés. Il parle de la faim, la nudité, les périls. Et au verset 37 du chapitre 8 de Romains, il dit « Mais dans toutes ces choses, lesquelles, la faim, la nudité, les périls, ils sont mis à mort. Dans toutes ces choses, il dit, nous sommes plus que perdants. » Il ne dit pas « nous sommes plus que perdants ». Nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est les enfants de Dieu, par celui qui nous a aimés. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ce verset, parce que bien souvent, nous nous considérons plutôt perdants ou défaitistes, ou il y a une situation qui ne va pas comme on veut, alors, voilà, on est complètement déconfit. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'un chrétien est toujours vainqueur, en réalité. S'il vit, il est vainqueur, mais s'il meurt, il est quand même vainqueur. Quand Étienne a été lapidé par ses bourreaux parce qu'il témoignait encore de Jésus, il était encore jeune, mais ce n'était pas un échec. Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu et il était accueilli comme un vainqueur dans le ciel. Il était encore plus que vainqueur alors qu'il était en train de mourir. Il n'y a pas, pour le chrétien, il n'y a pas de défaite en réalité. Nous sommes enfants de Dieu, de victoire en victoire, de gloire en gloire, et nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, je ne me permettrai pas de le dire certainement si c'était moi, mais c'est Paul qui le dit dans la parole inspirée par le Saint-Esprit, et il dit même dans ces choses qu'on considère des défaites, que ce soit la lapidation, que ce soit la mise à mort, la faim, les périls, la nudité, eh bien, il dit, même là encore, enfants de Dieu, nous sommes toujours vainqueurs et même plus que vainqueurs. Que Dieu soit béni pour sa parole. Quatrième point, c'est verset 25, c'est le quatrième homme qui arrive dans la fournaise, puisque le roi est entré dans une telle colère, une colère rouge, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et il a jeté, lié nos 3 amis dans la fournaise. Tout cela en réponse de leur foi. Peut-être à ce moment-là, ils ont dit, ben voilà Seigneur, on t'a fait confiance et voilà qu'on se retrouve maintenant dans la fournaise, peut-être en disant, c'est pas juste. Mais finalement, les vaillants hommes qui ont précipité les 3 Hébreux dans la fournaise, ce sont eux qui ont été brûlés par la flamme. Et la Bible dit que la flamme n'a pas fait de mal aux 3 Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. C'est au verset 25. Il reprit et dit, bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Quel miracle extraordinaire. Nous avons là un feu qui a brûlé même les bourreaux et un quatrième personnage qui ressemble à un fils des dieux. Un fils de Dieu, nous dirons que c'est, comme beaucoup de commentateurs, voient ici l'ange de l'Éternel, une préfiguration de Christ avant l'incarnation, donc, qui est pour nous une source d'encouragement. C'est-à-dire que Jésus est venu dans leur épreuve pour les garder, pour les réconforter, pour les protéger. Nous avons toujours raison de faire confiance au Seigneur. Paul dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen pour que vous puissiez la supporter. » Il y a dans ce verset beaucoup d'enseignements que nous devons méditer. Moi, c'est un verset qui m'a beaucoup accompagné quand Laurence a connu ses 3 années de maladie où il y avait chaque jour la situation se dégradait et les choses n'allaient pas dans le bon sens et c'était difficile. Et à chaque fois, je méditais des versets comme celui-là. Et ça me montrait que finalement, on a une force qui dépasse notre intelligence. Parce qu'au bout de quelques mois, de quelques semaines, j'avais l'impression que je n'avais plus de force. Mais la Bible dit qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces, si bien qu'on a des forces qu'on ne soupçonne pas. Et ces forces qu'on ne soupçonne pas vont venir à la lumière quand nous sommes éprouvés longtemps. Et plus nous sommes éprouvés longtemps, plus de nouvelles forces vont survenir en nous qu'on n'imaginait pas. C'est extraordinaire, ça. C'est la grâce de Dieu. Et en tout cas, à un moment donné, Dieu a dit stop maintenant, c'est bon. Parce que peut-être ça aurait duré plus longtemps, c'était au-delà de mes forces ou de nos forces. Mais là, c'était le temps d'arrêter. Et Dieu avait déjà préparé le moyen d'en sortir. Simplement, il fallait lui faire confiance tout ce temps. Dans le feu, les liens sont tombés. Ça nous parle de la liberté en Christ. Le feu n'a pas de pouvoir sur eux. Leurs cheveux même n'ont pas été brûlés. Jésus dit que même tous vos cheveux sont comptés. Pas un ne tombe à terre sans que le Père ne l'ait permis. En conclusion, le feu de la fournaise, je dirais qu'il sera tôt ou tard sur notre route. Et ne dites pas, ce n'est pas normal. Parce que Pierre dit, c'est tout à fait normal. 1 Pierre 4, 12 dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Voilà, je vous laisse ce verset pour terminer. Ce verset de Pierre, « C'est pas étrange d'être dans la fournaise. » Alors cette fournaise, vous la vivez peut-être ce matin, et ça, on ne peut pas la changer. On ne peut pas changer les circonstances et les difficultés qui nous entourent. Les trois Hébreux ne pouvaient pas éviter d'être jetés dans la fournaise. Ils y sont passés, ce n'était pas leur volonté, ce n'était pas leur désir. Mais ce sont les circonstances qui nous environnent et qui sont au-delà de tout ce que l'on peut imaginer ou penser. On ne peut pas les changer. Mais par contre, ce verset nous dit, on peut changer d'attitude dans l'épreuve. Verset 13, « Réjouissez-vous au contraire. » Parce que bien souvent, dans la fournaise, nous nous lamentons. Dieu m'a abandonné. Et pourquoi ceci m'arrive à moi? Et pourquoi je n'arrive pas à faire ceci? Et nous gémissons. Et nous nous plaignons. Mais Pierre dit non. Faites tout le contraire. Réjouissez-vous. Changez d'attitude au contraire. Et réalisez la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie dans l'éternité. Alors, quelquefois, il n'y a aucune raison de se réjouir. Et vous dites, oui, mais si vous saviez ma situation, pour moi, tout va tellement mal. J'arrive même pas à me réjouir de rien. Mais on chante parfois un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Réjouissez-vous pour des choses simples. Réjouissez-vous de ce qu'aujourd'hui, Dieu a renouvelé le souffle de vie en vous. C'est déjà une grâce. Eh bien, merci Seigneur pour la vie que tu m'as accordée. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants. On peut toujours remercier le Seigneur pour quelque chose. Même si tout va mal et les circonstances sont défavorables, on peut toujours trouver quelque chose. Pourquoi on peut remercier le Seigneur? Merci pour ce repas, Seigneur, que tu m'accordes. Merci pour ta grâce, pour cette situation, pour ce frère, cette sœur qui m'a encouragé. Voyez, il y a toujours une possibilité.